Radio Okapi.
À la une de l'actualité, la situation humanitaire des milliers de personnes déplacées est préoccupante dans les territoires de Lubero au Nord Kivu à la suite des avancées du M23. Cette alerte est lancée par la société civile locale qui appelle à une intervention urgente des autorités. Environ 400 enseignants de la cité de Tchela au Congo central ont perçu la prime de gratuité de 30 000 francs congolais d'aimer du gouverneur. Ces derniers promettent de revoir à la hausse cette prime. L'invité de ce journal est l'administrateur intérimaire du territoire de Djougouani-Touri. Le colonel Tshishimbi Maxime appelle les leaders des groupes armés au respect des engagements pris en vue de privilégier la paix dans cette entité. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir à tous. Ce journal part du Nord Kivu, où la société civile Force Vive du territoire de Lubero s'est dit très inquiète de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays. C'est là depuis les récentes attaques orchestrées dans le sud du territoire par les rebelles du M23. C'est confié à la presse jeudi. Mwindo Tafuteni, son président, parle de deux tiers du territoire déjà occupé par les assaillants, avec comme conséquence des milliers d'habitants devenus vulnérables et vivent dans la précarité. Pour cet acteur de la société civile, il est plus urgent que le gouvernement congolais se penche sur cette question, car les personnes déplacées sont dépourvues de tout. Mwindo Tafuteni dans cet extrait choisi par Guylaine Kassassia.
À titre d'occupation, je dirais vraiment que le territoire de Lubero est en train de perdre les deux tiers de son étendue. Comme acteur de la société civile, nous trouvons vraiment qu'il y a un danger énorme. Puisque là, c'est la population qui devient de plus en plus esclave. Mais aussi, la jeunesse de ces entités est plus exposée à être utilisée par force par l'ennemi pour conquérir les restes d'entités, tout en n'oubliant pas que le territoire de Lubero compte plus de 2 millions d'habitants et la grande partie de ces habitants reste dans la partie qui est sous contrôle par le M23. Il y a d'abord un problème par rapport au non-vivre. Il y a aussi un problème de vivre puisque la nourriture n'est pas facile à trouver dans la zone d'accueil. Donc il y a un grand problème par rapport aux outils de ménage, sans plus oublier les problèmes par rapport à la santé, puisque toutes les structures de la zone de santé de Kaina, d'Alimbongo et même Lubero touchées également sont vandalisées. Il y a trop de problèmes pour le moment qui nécessitent une intervention de la part du gouvernement et de la part des partenaires du gouvernement.
Tous les services de sécurité sont en état d'alerte pour permettre à la population de passer les festivités de fin d'année 2024 dans la quiétude. C'est ce qu'a dit hier le commandant urbain de la police nationale congolaise de Bunyani-Touri au cours d'une interview exclusive accordée à Radio Okapi. Selon le commissaire supérieur Abel Limwangu, les forces de sécurité seront déployées dans tous les points chauds, stratégiques et différents quartiers pour protéger la population et ses biens pendant cette période. Il demande aux habitants de collaborer avec la police. Il ajoute qu'un numéro vert est mis à la disposition de la population en cas d'urgence sécuritaire. Le commissaire supérieur Abel Limwangu est au micro de Martial Kizabiamungu.
Nous demandons à la population de bien exploiter les différents types d'alertes. En ce qui concerne les alertes, il y a des sifflets. Il faut parfois alerter par sifflet, par tambour, par alarme, par vuvuzela, comme vous le savez, il y a des cloches. Le numéro vert opérationnel pour la police est celui-ci. 081-10-50-013. Je reprends. 081-10-50-013. Et pour le numéro vert de Forces armées de la République démocratique du Congo, c'est 081-065-11-78. Je reprends, 081-065-11-78. Alors, vous pouvez aussi appeler différents numéros des commandants des unités, soit de la police FADC et des autres services de sécurité, si vous voulez avoir une intervention urgente. Alors, nous demandons à la population que d'éviter aussi le tapage nocturne. Il y a le tapage, la pollution sonore, et le pétard en cette période.
Par ailleurs, un conducteur de moto a été tué par des bandits armés jeudi sur l'axe Kalemie-Nyunzu dans la province du Tanganyika. D'après des témoins, la victime est tombée dans une embuscade tendue par des bandits armés à 50 km de Kalemie. Dans une déclaration hier à la presse, le président de l'association des motocyclistes effectuant des longs trajets demande aux autorités de la province de renforcer la sécurité sur plusieurs axes routiers. On écoute Rigen Kitungwa dans cet extrait sélectionné par Paul Emunanga.
J'ai reçu un message hier vers 19h
émana des motocyclistes qui étaient en brousse précisément sur l'axe Nyunzu à 50 km de Kalemi. Ils m'ont informé de la mort du conducteur des motos qui s'appelle Debaba Mjumbe. La victime a été tuée par des bandits armés. Nous sommes en train de faire une cotisation, nous les motocyclistes, pour contribuer à l'enterrement de notre membre. Nous demandons aux autorités de renforcer la sécurité sur les différents axes routiers. Nous exhortons aussi les journalistes de plaider pour nous auprès des autorités. La victime a reçu une balle au niveau du ventre et elle est morte sur place. C'était vers 19h. Les motocyclistes demandent aux autorités d'enlever le major des FARDC qui est posté au niveau de 50 km sur l'axe Nyunzu. Nous remarquons que cet officier ne sécurise pas cette route.
Autre chose à présent, à Ituri, le pont Embo sur le tronçon entre Nyanya et Isiro sur la route nationale numéro 25 dans les territoires de Mambasa s'est effondré hier. Selon des sources locales, c'était lors du passage d'un gros véhicule transportant des marchandises. L'administrateur du territoire de Mambasa met en cause le non-respect du tonnage et dit craindre des conséquences néfastes sur la vie de la population pendant cette période de fête de fin d'année. Des explications avec Martial Kizabiamongo.
Plusieurs sources à Nyanya rapportent que le pont Embo a cédé vendredi après-midi au passage raté d'un camion remorque transportant des produits brassicoles et d'autres marchandises de première nécessité en provenance de Kisangani. L'administrateur du territoire de Mambasa indique que le chauffeur est aux arrêts à la police. Pour Jean-Baptiste Mouniapandi, l'effondrement de ce pont de plus de 100 mètres intervient à un très mauvais moment à cette période des fêtes de fin d'année.
C'est un point important. Les produits qui viennent de Kisangani pour aller à Isiro, ça passe par là. Et les produits qui viennent du Nord Kivu vers Isiro et peut-être partant d'Urba et Aru passent par là. Donc, c'est-à-dire ça va causer une pénurie sur cet axe. Vraiment, il faut s'attendre à beaucoup de choses.
C'est sans doute déjà, des centaines de véhicules étaient bloqués à cet endroit qui, petit à petit, commence à se transformer à une place commerciale où certains ont érigé des petits restaurants et bistrots. L'autorité territoriale promet une enquête minutieuse et des sanctions contre les responsables de cet incident. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
C'est fait. La foire internationale du Congo Kinshasa Fikin, c'est désormais ainsi qu'il faut l'appeler au lieu des foires internationales de Kinshasa comme avant, a ouvert officiellement ses portes ce samedi à Kinshasa. Le lancement de cette fête foraine a été fait par le vice-premier ministre de l'économie Daniel Moukoko Samba en présence de plusieurs personnalités dont des membres du gouvernement. Vous aurez d'autres détails dans nos prochaines éditions. Toujours à Kinshasa, la SNEL affirme avoir maîtrisé ce samedi à 13h, l'incendie qui s'est déclaré depuis 10h40 au poste haute tension de Founa alimenté sous le transformateur numéro 1. La cause de cet incendie est encore inconnue jusqu'en ce moment. Cette information est livrée par le directeur des distributions des SNEL de la ville de Kinshasa. Denis Tukuzu rassure la clientèle de la SNEL, tant la population que les autorités, que la situation est sous contrôle. La SNEL met tout en œuvre pour le rétablissement de la desserte dans les heures qui suivent, indique-t-il. Merci d'écouter Radio Capi dans la province du Maniema où nous abordons le chapitre santé. Après plusieurs cris d'alarme et plaidoyers, le centre de santé de Bitoulé bénéficie d'un appui en médicaments et en matériel. Remis par le vice-gouverneur, ces dons du gouvernement provincial vient résoudre le problème des prises en charge des malades dans cette partie du nord du Maniema. Le médecin directeur de cette structure sanitaire remercie l'exécutif provincial pour ses gestes. Radio Capi Kindu, Florence Kizalunga, reportage.
À part les médicaments, ce don du gouvernement provincial est constitué entre autres de lits d'accouchement, lits pour les malades, matelas, lits d'opération et des équipements du laboratoire. Docteur Moïse Lunga Richel fait savoir que cet appui vient sauver la situation de ces centres.
On avait fait un plaidoirie au niveau de notre gouvernement provincial du Maniema afin de bien vouloir équiper notre centre et des centres de référence de matériel nécessaire pour pouvoir permettre une meilleure prise en charge de nos malades. À nos jours, nous avons réussi du gouvernement provincial médical, des équipements de laboratoire, du bloc opératoire et des médicaments. À cela, nous adressons nos sincères remerciements à notre Son Excellence Monsieur le Gouverneur Moussa Kabwankubi Moïse et son vice-gouverneur Katisamba Makubuli Corneille pour cet acte salvatrice.
Vu les difficultés que rencontrent ces centres de santé situés à 60 km de Lubutu, Dr Richel Mouassa continue à faire appel aux partenaires pour d'autres appuis, surtout l'ambulance pour les transports des malades. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Pendant ce temps, le nombre de blessés par armes soignés à l'hôpital général de référence de Bukavu Sud Kivu ne cesse de croître. L'afflux a commencé au cours du mois de décembre 2023. Le CICR qui prend en charge cette catégorie de malades vient d'augmenter la capacité hospitalière d'accueil des blessés à l'hôpital général de référence de Bukavu. Jean Kassami nous en fait le point.
L'espace aménagé va abriter 50 lits avec des toitures, des carrelages et des fenêtres innovées. Gisele Maéché, médecin directeur adjoint de l'hôpital général de référence de Bukavu.
Il s'agissait dès le départ d'augmenter la capacité d'accueil des blessés par armes qui commençait à augmenter, non pas seulement en lien avec les conflits armés, mais également il y a aussi un peu de taux de criminalité urbaine qui augmentait. Et dans le cadre de ce projet qui nous lie avec le CICR depuis une dizaine d'années, nous commençons à être à l'étroit et être un peu débordés. Alors on a finalement négocié afin de réorganiser, d'aménager un espace qui va abriter minimum 50 lits.
Le nouvel espace est plus spacieux et lumineux. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Nous sommes au Congo central. L'enveloppe et le nombre de bénéficiaires de la prime provinciale de la gratuité de l'enseignement primaire sera revu à la hausse. C'est ce qu'a annoncé hier le gouverneur des provinces à partir du territoire de Tchela où il se trouve en itinérance. Grâce Nkwanga Bilolo a procédé personnellement à la paye de la prime provinciale de la gratuité. C'est ce que nous dit Nana Plurichimambu.
Ils étaient près de 400 enseignants venus des coins et recoins de la cité de Tchela à percevoir la prime de gratuité de main du gouverneur de province Grâce Bilolo. Cette prime est de 30 000 francs. Les bénéficiaires de Tchela s'en sont réjouis.
Bien dans la joie parce que rien que ces primes-là nous fait du bien parce que ça nous donne quand même quelque chose de telle manière que ceux qui ne reçoivent pas le salaire, qu'ils aient quelque chose là.
Les chefs de l'exécutif provincial du Congo central a annoncé l'augmentation de l'enveloppe de cette prime. Grâce Nkwanga Bilolo.
On a fait le budget et on a élargi cette prime. Les techniciens vont travailler, on va ajouter quelques membres là. On va élargir la liste, comme j'ai dit. Tout ce que moi je peux vous demander, faites confiance au chef de l'État, continuez à les soutenir.
Signalons que c'est depuis le 19 décembre 2024 que le gouverneur de province est en itinérance dans l'ex-district du Bas-Fleuve. Plusieurs projets sont lancés, notamment la réhabilitation des routes et dessertes agricoles et construction de ponts. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Dire merci à leurs enseignants du primaire, du secondaire, de la maternelle et au personnel administratif ainsi qu'ouvrier, tel est l'objectif du déjeuner de l'unité organisé par les anciens du collège Boboto, ACB en sigle, de toutes les promotions ce samedi ici à Kinshasa. Cette activité qui en est à sa troisième édition a permis également aux ACB de présenter le projet de création de la boulangerie pour donner un nouvel élan au collège Boboto. Alain Irung nous fait vivre l'ambiance qui a régné au cours de cette célébration.
Ils sont aujourd'hui notamment médecins, professeurs d'université, chefs d'entreprise, promoteurs agricoles, informaticiens, cadres dans les grandes entreprises de la place, journalistes, avocats, magistrats, bref de tous les domaines. Ces anciens élèves du collège Boboto qui sont venus célébrer leurs encadreurs. Sami Mwamba, président de la troisième édition du Déjeuner de l'Unité.
Cette activité consiste à ce que les anciens les élèves viennent vers leurs anciens formateurs pour leur témoigner une marque de sympathie et de reconnaissance pour la formation, combien importante qu'ils nous ont transmise.
Pour sa part, le père Bonané, recteur du collège Boboto, exprime la joie de revoir ses anciens élèves revenir célébrer la fête de Noël avec leurs anciens encadreurs.
Pour nous, c'est une journée inoubliable. C'est une fierté pour nous. Une grande joie.
De son côté, le professeur Jean-Denis Nzeza, l'un des plus anciens enseignants du collège Boboto, laisse exploser sa joie.
C'est ma 38e année au collège Boboto. Je les ai vus tous passer. C'est un sentiment de joie, plein d'émotions. C'est signe de gratitude que nos anciens élèves viennent de témoigner à notre égard.
À la fin de cette activité, Chaque enseignant est rentré avec des cadeaux de la part des anciens élèves du collège Boboto.
Actualité internationale.
Le président français Emmanuel Macron a annoncé hier que la base française installée à Djibouti allait se réinventer comme point de projection pour des missions en Afrique après le retrait forcé des forces françaises du Sahel.
L'invité.
L'administrateur intérimaire du territoire des Djouganitouri appelle les leaders des groupes armés au respect des engagements pris en vue de privilégier la paix dans cette entité et promouvoir son développement. Le colonel Tshishimbi Maxime le dit au regard des attaques meurtrières ciblant notamment les sites déplacés dans le territoire des Djougou. Le colonel Tshishimbi Maxime revient sur les démarches menées à tous les niveaux de la hiérarchie pour ramener la paix dans Djougou. Il s'est confié à Sadiq Aboubakar.
Colonel Tshishimbi Maxime, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous observons une résurgence des cas d'insécurité dans le territoire de Djougou. Qu'est-ce que nous pouvons en savoir plus?
Je voudrais lancer un message de paix à toute la population de Djougou qui m'entend en ce moment, parce que nous tendons vers la fin de l'année. La population a besoin de fêter en toute tranquillité, et raison pour laquelle je lance ce message d'appel au calme, et surtout que les parties en conflit sont en train de m'écouter. Ils sont tenus à des engagements qu'ils ont adhéré. Ils doivent respecter la vie humaine et pouvoir faire en sorte que nos populations vivent en sécurité durant ces moments de fin d'année.
Au-delà de l'appel, quelle est la situation actuelle du territoire?
Nous sommes en train malheureusement de vivre des moments de provocation de part et d'autre. On a enregistré notamment des morts d'hommes et aussi quelques scènes de pillage. Et nous avons à l'occasion appelé au calme les uns et les autres, raison pour laquelle nous sommes mobilisés. Nous avons demandé la contribution de toutes les autorités politico-administratives au niveau de chefferie et des secteurs. Et nous sommes en train de consulter les différents leaders de deux parties pour arriver quand même à ce moment de paix.
Alors, au-delà de la démarche pacifique, du dialogue, rencontre avec les leaders de ces différentes milices, est-ce qu'il y a également une approche de la force qui est mise en place pour faire face à cette situation?
Vous le savez très bien, en province d'Ituri, c'est le gouverneur de province qui est à la fois commandant des opérations. Il a enclenché des mécanismes et nous nous limitons au niveau du comité territorial de sécurité. Nous avons de différentes autorités, notamment FARDC et de la PNC. C'est avec eux que nous interagissons et nous arrivons quand même à faire obstacle à toutes ces actions. Et si il y a quelque chose qui nous dépasse, nous recourons à l'autorité du gouverneur de province. Je tiens d'ailleurs à féliciter le professionnalisme de FARDC. Vous les avez vus sur terrain. Ils ont pu faire obstacle à la ruée de tous ces groupes. Et raison pour laquelle je confirme avec vous que l'armée est en train de faire son travail. Et ils ne le font pas en vase clos. Ils interviennent en opération mixte avec la MONUSCO, vous le savez très bien. Donc je les encourage, nos forces armées, à aller de l'avant, à sécuriser nos populations conformément à leur mission.
Vous avez parlé de rencontres avec les différents leaders de ces groupes armés sur la pacification de Djougou. Mais au-delà de ça, il y a toujours ces provocations, ces attaques qui continuent. D'après vous, qu'est-ce qui serait à la base?
Je ne peux pas être dans la tête de ces leaders. Néanmoins, je les ai rappelés au respect de la vie humaine, au respect mutuel et surtout à privilégier la paix et la cohésion entre communautés. Je me suis limité à ça. Aussi, je leur ai dit, voilà, lorsque l'on s'attaque aux populations civiles, on s'expose à la rigueur de la loi. Parce que s'attaquer à des populations civiles, s'attaquer aux églises, aux écoles, aussi des déplacés notamment, ça constitue des crimes graves pour lesquels nous ne pouvons pas rester bras croisés. Raison pour laquelle je les ai rappelés à leur engagement par rapport à tous ces aspects. Et quiconque verse dans la violence contre les populations civiles, la justice est là pour faire son travail. Mais dans le cadre de notre mission, au comité de sécurité, nous avons les FARDC et la PNC qui sont là pour sécuriser la population. Je pense que...
Pour terminer, un message direct et clair à tous les leaders des groupes armés qui sèment terreur et désolation dans le territoire du Djougou.
Je réitère le message du gouverneur de province de l'Ituri, du lieutenant général Ouya Kachama. Il a toujours été clair. Il a fait un appel à tous les fils de la province de l'Ituri, notamment du territoire de Djougou, à se mettre dans cette ligne droite, celle de faire la paix, parce que le moment est venu pour nous de faire la paix. Et raison pour laquelle différentes approches sont mises en place, le PDDRC est là comme programme justement pour pouvoir donner la chance à tous les porteurs d'armes à se mettre dans cette ligne droite du programme de désarmement. Le moment est venu et nous devons nous y conformer. Quant à la population, je leur dis de s'apaiser, d'autant plus que l'autorité, avec tous les autres comités de sécurité sont en train de travailler.
Colonel Tshishimbi Maxime, merci.
Merci, monsieur le journaliste.
Notre invité était avec Sadiki Aboubakar, 18h20 dans ses studios A de Radio Okapi en direct de Kinshasa. Ainsi prend fin cette édition du journal, coordonnée par Jacques-Yves Molima et supervisée par Alain Rong. La mise en onde a été assurée par Billy Landry Betou et grâce à Mzati Masanzi à la présentation. Ce journal est à réécouter sur www.radiokapi.net. Merci pour votre confiance et excellent week-end.